Chapitre 19. Élantris brillait. Sa pierre luisait comme si elle contenait du feu. Les dômes brisés avaient retrouvé leur intégrité. Ils ponctuaient la cité, billes à moitié enfouies dans le sol pavé. Les flèches des édifices criblaient le ciel tels des éclairs rectilignes. Son portail ouvert en permanence. Le mur n'avait plus rien d'une barrière. Dépouillé de sa fonction protectrice, il devenait une partie essentielle de l'ensemble sans laquelle Élantris aurait perdu sa cohésion. Et au milieu de toute cette gloire, de toute cette splendeur, il y avait les Élantriens. Leur corps semblait scintiller des mêmes feux intérieurs que la cité. Leur peau n'était qu'argent liquide, un idéal, au lieu d'un simple métal. Ils avaient la chevelure d'un blanc qu'on aurait eu bien du mal à comparer au gris terne des cheveux d'un vieillard. Non, c'était le blanc éclatant de l'acier, porté à une température extrême, un blanc pur, unique, formidable. Leur maintien était frappant. Chacun se déplaçait avec une grande maîtrise de soi. Les hommes paraissaient grands, même les petits, et les femmes belles, même les laides. Ils ne se pressaient jamais, déambulant plus que marchant, et ils s'attardaient même à saluer chacune de leurs connaissances. Il y avait toutefois une grande puissance en eux, qui irradiait leurs regards et soulignait leurs moindres gestes. On voyait sans mal pourquoi ils faisaient l'objet d'une adoration quasi divine. Et partout, il y avait les glyphes séculaires. Les ahons creusés dans les murs, peints sur les portes, gravés sur les enseignes. La plupart étaient inertes, de simples inscriptions au lieu de runes magiques. Mais certains, de toute évidence, renfermaient visiblement de l'énergie. Dans toute la cité se dressaient de grands panneaux métalliques sculptés de l'Aontia. Parfois, un Élantrien s'en approchait et posait sa main au centre du caractère. Son corps s'illuminait, puis disparaissait dans une boule de lumière, transportée vers un autre quartier. Au milieu de toute cette magnificence allait une famille de Caé. Ils portaient de riches atours et parlaient avec élégance, mais leur peau ne brillait pas. De fait, on voyait des gens ordinaires dans la cité, moins nombreux que les Élantriens, mais bien présents. Ce détail réconfortait le garçonnet en lui fournissant un élément familier. Le père portait son jeune fils et regardait alentour sur ses gardes. Tout le monde n'adulait pas les Élantriens, certains les considéraient avec suspicion. La mère tenait son mari par le bras, les doigts blanchis. Elle n'était jamais venue dans la cité, même si elle habitait Caé depuis une bonne décennie. Contrairement au père du garçonnet, elle apparaissait plus nerveuse que méfiante. La blessure de leur fils l'inquiétait, comme toute mère dont l'enfant risque la mort. Soudain, le garçonnet sentit la douleur dans sa cuisse, une douleur terrible, intense, qui venait de la plaie suppurante et de la fracture en tombant d'une certaine hauteur. Il s'était blessé si gravement que l'os avait percé la peau. Les meilleurs médecins et chirurgiens embauchés par son père n'avaient pas réussi à stopper l'infection. Même s'ils lui avaient remis l'os en place de leur mieux, il était cassé en une bonne dizaine d'endroits. Au mieux, le garçon boiterait toute sa vie. Avec l'infection, il ne restait qu'à l'amputer. À part eux, les praticiens craignaient qu'il ne soit trop tard pour une telle opération. La fracture ouverte se situant tout près de la hanche, l'infection avait déjà dû se répandre dans le torse. Le père avait exigé la vérité. Averti que son fils se mourait, il était donc venu à Élantris, malgré une vie entière de méfiance à l'égard de ses dieux. Suivi de sa femme, il porta le garçon vers un édifice en dôme dont la porte s'effaça sans bruit à leur approche. Là, il s'arrêta, comme prêt à revenir sur sa décision. Mais la mère le tira par le bras avec insistance. Alors il hocha la tête, qu'il garda baissée en entrant. L'éclat des ahons baignait le lieu. Une femme à la crinière blanche s'avança, un sourire d'encouragement sur son visage argenté. Ignorant l'air méfiant du père, elle lui prit le garçon qu'il ne céda qu'à regret, l'allongea sur un doux matelas et tendit la main au-dessus de lui, l'index pointé vers le néant. L'Élantrienne bougea la main. L'air se mit à scintiller. une traînée brillante suivait son doigt, telle une rupture dans la réalité. Un interstice irradiant par lequel une véritable marée de lumière semblait vouloir s'immiscer. Le garçon sentait ce pouvoir qui rageait de ne pouvoir se libérer. Seule une infime partie avait le droit de filtrer. Même ce peu l'éblouissait. La femme poursuivit sa calligraphie aérienne et finit ainsi par tracer l'Aon Yen, ou plutôt sa version complexe. En son cœur résidait l'Aon classique du soin, mais elle y avait ajouté des dizaines de traits et de courbes. Le garçon plissa le front. Ses tuteurs lui avaient enseigné les Aons, et il trouvait bizarre que la belle élantrienne modifie celui-ci à ce point. Elle adjoignit une dernière virgule à son échafaudage. L'Aon brilla encore plus fort. Le garçon sentit sa jambe, puis son torse le brûler. Il voulut crier, mais la lumière s'éteignit. Surpris, il écarquilla les paupières. L'image rémanente du Yen brûlait toujours dans son champ de vision. Il baissa les yeux et vit que sa blessure avait disparu, sans laisser de cicatrice. Pourtant, la souffrance le torturait. Elle le fouaillait, elle le tenaillait, elle lui cautérisait l'âme, toujours présente. « Repose-toi, mon petit, » dit la femme d'une voix chaude, en le repoussant sur le matelas. Sa mère pleurait de joie. Même son père semblait satisfait. Le garçon aurait voulu crier son désespoir. Sa jambe n'était pas guérie. La douleur persistait, dévorante.
« Non, quelque chose ne va pas !»
Il forma les mots sans parvenir à les prononcer. Il n'arrivait plus à parler.
« Non !»
hurla Raoden en se redressant brusquement sur son séant. Il scia plusieurs fois, désorienté dans l'obscurité. Enfin, il prit de profondes inspirations et porta la main à sa tête. La douleur persistait et gagnait en intensité au point de corrompre ses rêves. Au bout de 3 semaines à Elantris, il arborait plaies et bosses par dizaines. Il sentait distinctement chacune d'elles. Leur assaut concerté mettait en péril sa santé mentale. Il gémit, puis se pencha et s'empoigna les cuisses. Même si son corps ne transpirait plus, il le sentait trembler. Les dents serrées, les mâchoires crispées, il parvint tant bien que mal à en reprendre le contrôle, à bannir la souffrance. Enfin, il lâcha ses jambes et se leva. C'était de pire en pire. Il n'aurait pas dû s'en ressentir à ce point, alors qu'il ne vivait à Elantris que depuis un mois. Et la douleur était censée rester étale. Or, elle semblait venir par vagues. Elle était toujours présente, toujours prête à l'assaillir dans un moment de faiblesse. Avec un soupir, il poussa la porte et sortit de sa chambre. Décidément, il paraissait bizarre que les Elantriens doivent dormir. Leur cœur ne battait plus, ils n'avaient plus besoin de respirer. Pourquoi leur fallait-il du sommeil ? Les autres ne pouvaient pas le renseigner, et les véritables experts avaient trouvé la mort une décennie auparavant. Il dormait donc, et il rêvait. Il comptait 8 printemps quand il s'était blessé. Son père, qui se méfiait des Elantris dès avant le Réode, répugnait à l'y amener, mais sa mère, dont le Raoden actuel portait le deuil depuis 12 ans, avait insisté. Le garçonnet qu'il était alors ne comprenait pas qu'il avait frôlé la mort. Il avait souffert de sa blessure, et goûter la paix apportée par la guérison. Il se rappelait la beauté de la cité et de ses habitants. Lorsque Yadon avait dénigré Elantris alors qu'il repartait, Raoden l'avait contredit avec véhémence. C'était la première fois qu'il prenait parti contre son père. Ce ne serait pas la dernière. Lorsqu'il entra dans la nef de la chapelle, Saolin quitta son poste près de la porte de sa chambre et lui emboîta le pas. Au cours de la dernière semaine, le vétéran avait rassemblé un groupe de volontaires pour former une escouade. « Vous savez que vos attentions me flattent, Saolin, » dit le prince. « Mais sont-elles vraiment bien nécessaires ?»« Un seigneur a besoin d'une garde d'honneur. Il ne vous siérait guère de vous promener seul. »«
Je n'ai rien d'un seigneur. Je ne suis qu'un dirigeant. Il n'y a pas d'aristocratie à Elantris.
Je comprends, mon seigneur. »
L'autre hocha la tête, sans s'aviser de la contradiction.
« Mais c'est dangereux par ici. »«
Comme vous voudrez. Où en est notre champ ?»«
Galadon a terminé de le labourer et organisé les équipes de planteurs. »«
J'ai dormi bien tard, » dit Raoden. Il lui avait suffi d'un regard par la fenêtre de la chapelle pour jauger la hauteur du soleil dans le ciel. Il quitta le bâtiment, Saoline sur ses talons, et rejoignit le jardin par une belle allée pavée. Kahar et son équipe en avaient nettoyé les pierres. Daad, un des fidèles de Taan, avait utilisé ses talents de maçon pour la restaurer. Les semailles étaient déjà bien avancées. Galadon veillait au grain. Mais même s'il distribuait volontiers les rebuffades à la moindre erreur, il semblait heureux. Certains devenaient fermiers par nécessité. Le Dula paraissait dans son élément. Le prince se rappelait clairement le jour où il l'avait tenté avec la lanière de viande séchée. Son ami peinait à contrôler sa souffrance, et plusieurs fois, les premiers temps, il avait fait peur au jeune homme. Cela appartenait au passé, comme en témoignaient son regard et son maintien. Il avait trouvé le secret, comme disait Kahar. Galadon se maîtrisait. Le seul que Raoden devait craindre désormais, c'était lui-même. Ses théories fonctionnaient mieux qu'il ne l'avait espéré, mais seulement sur les autres. Il avait apporté la sérénité aux douzaines de personnes qui le soutenaient, mais pour sa part, il ne trouvait aucun repos. La douleur continuait de l'affliger. Elle le menaçait dès son réveil et lui tenait compagnie tout au long de la journée. Il était plus résolu que quiconque, décidé à voir Elantris se relever. Ses journées, il les remplissait sans se laisser un seul moment de libre pour contempler ses maux. Mais il n'y avait rien à faire. Il continuait de souffrir. De plus en plus.
« Monseigneur, attention !» hurla Saoline. Raoden sursauta et se tourna vers l'élantrien torse nu qui le chargeait d'une ruelle obscure en rugissant. Il eut à peine le temps de broncher, le démon brandit une barre de fer rouillée et l'abattit, visant sa tête. Un éclair d'acier jaillit et la lame de Saoline part à le cou. L'attaquant bestial hésita, le temps de prendre la mesure de ce nouvel adversaire. Grave erreur. Le soldat se fendit avec une aisance consommée pour l'empaler dans l'abdomen, puis dégagea sa lame et d'un revers le décapita pour l'achever. Il n'y eut pas une goutte de sang versée. Le cadavre s'affala par terre. Saoline salua le prince de sa lame avec un sourire rassurant auquel manquaient plusieurs dents, et pivota pour affronter le groupe d'énergumènes qui se ruait sur eux d'une rue latérale. Choqué, Raoden recula en trébuchant.
« Non, ils sont trop nombreux !»
Par bonheur, le tapage avait alerté le reste de la garde. En quelques secondes, ils se retrouvèrent cinq, Saoline, Daché et trois autres, face à la horde. Ils se déployèrent en arc de cercle pour barrer le passage vers le jardin, avec une aisance dans la coordination qui témoignait d'une longue pratique. Les hommes de Shaor avaient l'avantage du nombre, mais leur furie ne faisait pas le poids face à l'entraînement martial. Elle les rendait stupides. Ils attaquaient isolément. Bientôt, la bataille s'acheva. Les derniers assaillants debout détalèrent. Saoline essuya sa lame, puis se tourna vers les quatre autres qui saluèrent Raoden dans un bel ensemble. Le combat s'était passé si vite que le prince avait eu du mal à le suivre. « Joli travail !» parvint-il enfin à dire. Un grognement de mécontentement monta de Galadon qui était venu s'accroupir près du corps du premier attaquant.
« Ils auront entendu parler de notre grain, » marmonna le Dula.
« Les pauvres rulots !» Raoden acquiesça avec solennité et considéra les fous à ses pieds. Quatre d'entre eux gémissaient, les mains crispées sur les lèvres d'une plaie qui aurait tué n'importe qui d'autre. Un frisson le parcourut. Il savait bien ce qu'ils enduraient. « Cela ne peut pas continuer, » murmura-t-il.
« Je ne vois pas comment tu pourrais l'empêcher, Sulé. Ce sont des gars de Shaor. Même lui a du mal à les contrôler. »
Le prince secoua la tête. « Il n'est pas question de sauver les gens d'Elantris pour qu'ils doivent se battre. Je refuse de bâtir une société sur la mort. Les partisans de Shaor sont des hommes. Ils l'ont peut-être oublié. Mais pas moi. »
Galadon fronça les sourcils.
Karata et Aanden étaient des possibilités, même ténues. Shaor, c'est une autre affaire. Ceux-là n'ont plus une once d'humanité. On ne peut pas les raisonner.
Dans ce cas, il faut leur rendre la raison.
Et comment comptes-tu faire, Sulé ?
Je trouverai un moyen. Raoden s'agenouilla près du décapité. Il lui semblait plus ou moins l'avoir déjà vu, et récemment.
Ce pouvait être un des partisans de Taon, auquel il avait dû faire face durant la tentative de raid menée par Daché.
C'est donc vrai, songea-t-il avec un nœud à l'estomac.
Un bon nombre de ces hommes l'avaient rejoint. Mais on disait que le gros des fidèles de Taon avait gagné l'ancien quartier des marchands pour grossir les rangs des fous de Shaor. Cela n'avait rien de très surprenant, au fond, pour des fidèles d'un déséquilibré comme à Anden. La différence ne devait pas être bien marquée.
« Messire ?»
s'enquit Saolin, hésitant.
« Que fait-on d'eux ?»
Le prince contempla les pauvres airs d'un regard apitoyé. « Ils ne représentent plus un danger, Saolin. Mettons-les avec les autres. » À la suite de son succès vis-à-vis de la bande d'Ahanden et de l'inflation de ses propres effectifs, Raoden avait entrepris une tâche qu'il s'était fixée depuis longtemps, rassembler les Élantriens à bout de résistance. Il les tirait des ruelles et des caniveaux, des édifices intacts et en ruine. Il s'efforçait de trouver chaque homme, femme et enfant d'Élantris qui avait succombé à la douleur. La cité était vaste, la main-d'œuvre dont il disposait limitée. Mais il avait ramassé jusqu'à présent des centaines de victimes. Il les faisait placer dans le second bâtiment nettoyé par Kahar, une grande salle de plain-pied qu'il avait eu l'intention d'utiliser comme lieu de réunion. Les Oed souffriraient toujours, mais au moins, ce serait avec un peu de dignité. Et ils ne souffriraient pas seuls. Raoden avait demandé aux siens de leur rendre visite. Il y avait d'ordinaire deux ou trois Élantriens qui circulaient parmi les Oed, leur parlaient d'un ton apaisant, et tâchait de les mettre à l'aise, autant que possible, dans de telles circonstances, bien sûr. Ce n'était pas grand-chose, et personne ne tenait longtemps en présence de ces malheureux, mais le prince était persuadé que cela aidait. En accord avec son propre édit, il se rendait à la maison des déchus au moins une fois par jour. Il avait l'impression que l'état des Oed s'améliorait. Au lieu du vacarme des débuts, régnait ici un désespoir plus tranquille. Les cris avaient laissé place aux murmures. L'air grave, il aida à porter parmi eux l'un des quatre fous blessés. Il avait ordonné qu'on enterre le cinquième, décapité par Saolin. Selon toute apparence, la décollation totale tuait un Élantrien. En tout cas, ses yeux ne bougeaient plus et ses lèvres n'essayaient plus de former des sons, une fois sa tête séparée de son tronc. En marchant parmi les Oed, il entendait leur chuchotis.
Belle, si belle autrefois. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Domu, où es-tu? Quand viendra la fin? Oh, Domu!
Au bout d'un moment, ils n'écoutaient plus, de peur que leurs antiennes ne sapent sa raison, voire ne réveillent la douleur tapie en lui. Yen flottait au-dessus des visages aveugles et des corps immobiles. Le Séon passait beaucoup de temps dans la salle. Étrangement, il y paraissait à sa place. Il quittait la maison des déchus sans mot dire, tout à leur pensée, quand Raoden avisa la déchirure dans la robe de Saolin.
« Mais vous êtes blessé ?»«
Ce n'est rien, monseigneur, » dit l'autre avec indifférence.
« Cette pudeur est peut-être louable dehors, mais pas ici. Je vous prie d'accepter mes excuses. »«
Monseigneur, » répondit le vétéran avec gravité, « être un Élantrien ne me rend que plus fier d'arborer cette blessure. » Je l'ai reçu en protégeant notre peuple. »
Le prince se retourna pour poser sur la salle un regard tourmenté.
Elle vous rapproche encore de...
Non, monseigneur, je ne crois pas.
Ces gens ont laissé la souffrance les dévorer faute d'avoir un but. La torture qu'ils enduraient n'avait aucun sens. On renonce vite à la vie quand elle n'a plus de sens. Cette blessure me fera mal, mais chaque élancement me rappellera l'honneur qui s'y attache. Ce n'est pas si mal, il me semble.
Raoden considéra le vieux soldat avec respect. Dehors, Saolin aurait sans doute approché de la retraite. À Élantris, où le Shaod nivelait les différences, il semblait du même âge que tout le monde. On ne pouvait pas dire le nombre des ans à l'apparence, mais on le pouvait peut-être à la sagesse. Vous parlez avec discernement, mon ami. J'accepte donc votre sacrifice avec humilité. Un bruit de course mit un terme à l'échange. Karata surgit, laissant derrière elle des traces de vase. Kahar serait furieux. Elle avait oublié de s'essuyer les pieds avant de regagner la chapelle, et elle lui avait sali son beau pavage. De toute évidence, la femme se souciait de la vase comme d'une guigne. Elle passa le petit groupe en revue, s'assurant que nul ne manquait à l'appel. j'ai appris que Shaor avait attaqué. Des victimes ?
5. Toutes dans leur camp, répondit Raoden. Elle jura.
J'aurais dû être là.
Karata organisait la venue de ses gens à la chapelle. Mieux valait se regrouper dans un lieu propre. Curieusement, jamais l'idée de nettoyer le palais n'était venue à cette femme de tête. La plupart des Élantriens acceptaient la crasse omniprésente sans se poser de questions. « Vous avez bien des choses en tête, » répondit le prince. « Vous ne pouviez pas prévoir que Shaor attaquerait. » Karata grimaça, mais lui emboîta le pas sans rien ajouter.
« Vise-moi celui-là, Sulé, » dit Galadon avec un sourire. « J'ai du mal à en croire mes yeux. »
Le jeune homme suivit son regard. À genoux près de la chaussée, Tahan examinait un muret avec un émerveillement enfantin. L'ancien baron avait passé la semaine à cataloguer l'ensemble des frises, sculptures et bas-reliefs de la chapelle et de ses environs. Il avait déjà découvert, à l'en croire, une douzaine de techniques inconnues. Sa transformation était aussi remarquable que son désintérêt pour un quelconque rôle dirigeant. Karata gardait de l'influence dans le groupe élargi. Elle acceptait la primauté du prince, mais conservait une certaine autorité. Tahan, lui, accaparé par sa tâche, ne donnait jamais aucun ordre. Ceux de ses partisans qui avaient rejoint le prince paraissaient s'en moquer. L'ancien baron estimait que 30% de sa cour était venue grossir leur rang par petits groupes. Raoden espérait que la plupart des autres avaient choisi la solitude et refusait d'envisager que 70% d'une troupe aussi importante ait choisi Shaor. Il avait avec lui tous les gens de Karata, mais la bande qu'elle dirigeait avait toujours été la moins nombreuse, quoique la plus efficace. Shaor avait bénéficié de l'avantage du nombre. Il ne manquait aux siens que la cohésion et la motivation pour attaquer leurs rivaux. Les nouveaux venus innocents dont ils s'emparaient parfois apaisaient leur soif de sang. La situation avait évolué. Peu enclin à la clémence envers ses fous, le prince les empêchait désormais de tourmenter les arrivants. Karata et Saolin recueillaient ceux qui passaient le portail et les emmenaient à l'abri vers le groupe de Raoden. La bande de Shaor avait mal réagi. Le jeune homme craignait que cela ne fasse qu'empirer. « Il faudra s'occuper d'eux, » se dit-il. Cela devrait pourtant attendre. Pour l'heure, il entendait retourner à ses études. Une fois à la chapelle, Galadon retourna s'occuper de ses semailles. Les hommes de Saolin se dispersèrent pour mener leur patrouille et Karata décida, malgré ses protestations initiales, de regagner le palais. Bientôt, le prince et Saolin se retrouvaient seuls. Entre sa grasse matinée, le combat et la visite à la maison des déchus, Raoden avait perdu la moitié de sa journée. Il entama son travail avec détermination. Tandis que Galadon plantait et que Karata faisait évacuer le palais, il s'était fixé pour tâche d'en apprendre le plus possible sur l'Aondor, car il avait peu à peu acquis la certitude que le secret de la chute d'Elantris résidait dans la magie des caractères antiques. Il s'assit par terre, passa le bras par l'une des fenêtres de l'édifice et saisit le gros volume posé sur une table. Jusqu'à présent, le livre lui avait moins servi qu'il l'avait espéré. Plus que d'un manuel, il s'agissait d'un recueil d'essais détaillant des particularités étranges ou fascinantes de la magie pour des érudits en la matière. Il donnait surtout des exemples de ce qui ne devait pas arriver. Le prince devait procéder à rebours afin de reconstituer la logique de l'Aondor. Il n'avait guère progressé. Il lui apparaissait qu'un Aon ne constituait qu'un point de départ, le tracé le plus simple avec lequel on pouvait obtenir un résultat. Comme dans son rêve, l'Aondor avancé consistait à dessiner un Aon de base autour duquel on ajoutait d'autres figures qui se résumaient parfois à des points et des traits. Agissant comme des déterminants, ils augmentaient ou réduisaient la cible du pouvoir. Ainsi, un guérisseur doué pouvait spécifier quel membre affecté, quels soins lui apporter et comment nettoyer l'infection. À mesure que Raoden avançait dans sa lecture, il voyait les Aons moins comme des symboles mystiques que comme des formules algébriques. La plupart des Élantriens du passé savaient les dessiner. Une main sûre et des notions basiques d'écriture suffisaient. Mais les vrais maîtres étaient capables de tracer vite et bien des douzaines de modifications de détails autour de l'Aon central. Par malheur, l'auteur supposait que ses lecteurs possédaient une connaissance solide de l'Aondor et passaient sur les principes généraux. Les rares illustrations étaient si complexes
que le jeune homme avait souvent du mal à reconnaître le caractère de base sans se référer au texte.
Si seulement il voulait bien expliquer ce que ça signifie de canaliser le Dor !
S'écria le prince, frustré, en relisant un passage fort irritant qui ne cessait d'utiliser l'expression.
« Le Dor, Sulé ?»
demanda Galadon en levant la tête de ses semailles.
« On dirait un terme du Laden. »
Raoden redressa son buste. Le caractère employé dans le livre était peu commun. Il ne s'agissait pas d'un naon, mais d'une représentation phonétique, et donc d'un emprunt à une autre langue.
« Mais tu as raison, mon ami. Il n'a rien d'aonique. »
« Bien sûr que non. Ça ne peut pas être un naon, puisqu'il n'a qu'une voyelle. »
« Plutôt simpliste comme raisonnement. »«
Simpliste, mais juste. Colo ?»«
Oui, je suppose. Peu importe. Pour l'instant, ce Dor, tu sais ce qu'il signifie ?»«
Ma foi, si c'est le même mot, il fait référence au Jesker. »«
Qu'est-ce que les mystères viennent faire là-dedans ?» demanda le jeune homme d'un ton soupçonneux.
« Doloken, le Jesker et les mystères n'ont rien à voir. » Ce que Lopellon appelle les mystères Jeskeri n'a pas plus de lien avec la religion du Laden qu'avec le Shukeseg.
Je le note. En signe d'apaisement, le jeune homme leva les mains. À présent, parle-moi du Dor.
Ce n'est pas facile à expliquer.
Galadon s'appuya sur la binette de fortune qu'il s'était fabriquée avec un piquet et des pierres.
Le Dor est le pouvoir invisible, présent partout, qu'on ne peut pas toucher. Il n'affecte rien, mais il contrôle tout.
Pourquoi les rivières coulent-elles ? Parce que l'eau est attirée vers le bas, comme tout. La glace fond dans les montagnes et elle doit aller quelque part.
Exact.
Autre question. Pourquoi l'eau veut-elle couler ?
J'ignorais qu'elle avait besoin de le vouloir.
Elle en a bel et bien besoin. Sa motivation, c'est le Dor. Le Jesker nous enseigne que seuls les humains ont la faculté ou le défaut d'être inconscient du Dor. Tu sais peut-être que si on enlève un oisillon à ses parents et qu'on l'élève chez soi, il apprendra tout de même à voler.
Et ? D'où tient-il ce savoir, Sulé ?
Du Dor ? Avança le jeune homme hésitant.
Exact.
Raoden sourit. L'explication paraissait trop mystique pour être utile, mais il songea à son rêve, souvenir d'un passé qui semblait désormais fort lointain. Lorsque les Lantriennes avaient dessiné Laon, il avait cru voir l'air se déchirer dans le sillage de son doigt. Le prince sentait encore le chaos déchaîné de l'autre côté de l'interstice, la force gigantesque qui tentait de filtrer par le caractère pour l'atteindre. Son énergie cherchait à l'envahir, à le briser, à l'accaparer. Laon, échafaudé par la guérisseuse, l'avait canalisé. Il l'avait rendu utilisable et il avait guéri la jambe de Raoden au lieu de le détruire. Cette force inconnue était réelle. Elle formait aussi la base des Aons qu'il dessinait, aussi faible soit-il.
« C'est ça, Galadon. Voilà pourquoi on reste en vie. »«
Qu'est-ce que tu déblatères, Sulé ?» demanda le Dula en posant sur lui un regard tolérant.
« C'est pour ça qu'on survit. Quand bien même notre corps ne fonctionne plus. Tu vois, on ne mange pas, mais on a l'énergie nécessaire pour se déplacer. Il doit y avoir un lien entre les Elantriens et le Dor. » Il nourrit notre organisme, il lui fournit l'énergie nécessaire.
Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il ne nous en donne pas assez pour faire battre notre cœur et empêcher notre peau de devenir grise ?
Rétorqua l'autre peu convaincu.
Il y en a trop peu. Là, on dort, n'agit plus. Le flux de pouvoir qui baignait la cité n'est plus qu'un ruisselet. Mais il n'a pas disparu. On peut toujours tracer des aons, quoique faibles et inefficaces. Notre esprit fonctionne encore, quoique dans un corps inerte ou presque. Il nous faut juste trouver le moyen de rendre sa puissance au Dor.
Ah, c'est tout ? Une simple réparation ?
Je crois, oui. Ce qui importe, c'est de savoir qu'il existe un lien entre le Dor et nous, et entre le Dor et ce pays.
Galadon plissa le front.
D'où sors-tu cette idée, Sulé ?
Laon Dor s'est développé en Arelon, nulle part ailleurs. D'après ce livre, plus on s'éloignait des Elantris, plus il perdait de sa puissance, et seuls les Arélois succombent au Shaod. Il peut prendre des Tewa, mais il faut qu'il vive en Arélon le moment venu. Oh, et un Dula, de temps en temps.
Je n'avais pas remarqué.
Il y a un lien entre cette terre, les Arélois et le Dor.
Jamais le Shaod n'a pris de Fjordel aussi longtemps qu'il ait vécu ici. Et les Dulas sont des sangs mêlés, moitié Jindoé, moitié Arélois. Dans ton pays, où se situait ta ferme ? Le colosse fronça les sourcils.
Vers le nord, Sulé.
La région qui borde l'Arélon, dit Raoden triomphant. Tout cela se rattache à la terre et aux lignées aoniques.
Je reconnais que ton raisonnement se tient, Sulé, mais je ne suis qu'un simple fermier. Je ne sais rien de ces choses.
À d'autres, mon ami. Mais quel est le lien au juste ? Et si les Fjordel avaient raison de croire l'Arélon maudit ?
C'est bien beau d'émettre des hypothèses empiriques.
J'arrêterai d'émettre des hypothèses sitôt que tu me diras où un simple fermier a appris le mot empirique.
Galadon ne répondit pas, mais Raoden crut l'entendre rire sous cape.